Bien, donc je vais aborder au cours des trois séances un thème transversal qui est celui donc de la crise de cette année à l'Université populaire de Lyon, mais dans un domaine spécifique qui est le champ politique. Et je vais plus spécifiquement explorer l'état intellectuel, moral et politique de ce qu'on appelle la gauche, ou plutôt les gauches, aujourd'hui en France. Dans ce cas, je vais utiliser la notion de crise comme visant un état de brouillage des repères, repères intellectuels, moraux et politiques, dans cette gauche. Donc, quand je parle de gauche, il faut bien entendre des gauches, parce qu'on verra que il peut y avoir des différences entre les différentes gauches, parfois des éléments transversaux. Ce brouillage des repères sera principalement analysé sous l'angle de la philosophie politique, mais une philosophie politique en dialogue d'abord avec la sociologie et d'autre part avec des engagements dans cette gauche, mais plutôt dans le pôle radical et libertaire de cette gauche. Alors, ce que je vais présenter, là, je vais faire une petite introduction générale avant de passer à la séance proprement dite qui a le thème plus spécifique, crise des valeurs et des conceptions de l'humain à gauche. Ce que je vais présenter lors des trois séances s'inscrit dans un cadre plus général que j'appelle la réinterrogation des logiciels de la critique sociale et de l'émancipation. Alors, si j'emprunte une métaphore au vocabulaire informatique, logiciel, c'est pour pointer un niveau qui est peu souvent perçu à gauche, qui est le niveau de la formulation même des questions et des problèmes. C'est-à-dire qu'on a tendance plutôt à vouloir apporter des réponses, mais en se précipitant sur les réponses, souvent les différentes forces de gauche sont amenées à générer des réponses assez semblables, puisque les logiciels, donc la formulation même de formulation des problèmes et des questions, n'a pas été mis en cause ou interrogé. Et souvent, on s'appuie sur des formes de routine dans la formulation des problèmes et des questions. Donc, le niveau de l'interrogation des logiciels de la critique sociale et de l'émancipation. Alors, pourquoi associer critique sociale et émancipation pour qualifier l'idée de pensée de gauche? La critique sociale, ce sont les analyses qui visent à identifier du négatif, des AP négatifs dans un ordre social, hein, des inégalités, des dominations, des exploitations, etc., des rapports de pouvoir. Toutefois, cette identification du négatif, la critique sociale, est souvent opérée, parfois implicitement, parfois explicitement, en fait de plus en plus implicitement aujourd'hui, dans l'horizon d'un positif. C'est-à-dire que, au nom de quoi on peut dire que quelque chose est négatif, c'est au nom d'une certaine idée de ce qui est positif. Hein. Au nom de quoi on peut dire qu'il y a des inégalités, c'est au nom d'une certaine idée de l'égalité. Au nom de quoi on peut dire qu'il y a des injustices, c'est au nom d'une certaine idée de la justice. Souvent, ces idées d'égalité, de justice, etc., ce positif est assez, en fait, implicite et n'est pas explicité dans les critiques contemporaines. Alors ici je vais appeler positif ce positif l'émancipation, qui est un terme classique à gauche depuis le XVIIIe siècle, en tout cas depuis les lumières du XVIIIe siècle. Émancipation, ce terme a d'abord pris un sens particulier au XVIIIe siècle, hein, dans les lumières. Si je prends l'expression d'Emmanuel Kant, donc un des grands philosophes du XVIIIe siècle, de ce qu'on appelle les lumières allemandes, Kant, dans un célèbre court texte en réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?», va parler pour l'émancipation d'une sortie de l'homme hors de l'état de tutelle. Une sortie de l'homme hors de l'état de tutelle. Bon. Alors, donc une sorte d'arrachement à une contrainte, on peut dire. Aujourd'hui, parce qu'il y a l'eau qui est passée sous les ponts après Kant, il y a eu la naissance du mouvement socialiste au 19e, il y a eu le développement des sciences sociales modernes. Et on pourrait dire que l'émancipation, on pourrait le qualifier d'une sortie de domination dans la construction d'une autonomie individuelle et collective, en précisant un peu cette idée de sortie des tutelles. et qui, aujourd'hui, dans les pensées de l'émancipation, suppose certaines conditions sociales. Ça peut pas, cette émancipation ne peut pas être que individuelle, même si elle est aussi individuelle. Alors, il se trouve que trois livres parus en 2012 ont nourri pour l'instant cette démarche que j'appelle réinterrogation des logiciels de la critique sociale et de l'émancipation. Ils ont un livre à tonalité plus universitaire centré sur les pensées critiques contemporaines, dont particulièement Pierre Bourdieu, Jacques Rancière et Michel Foucault. Donc c'est un livre sorti en juin 2012 qui s'appelle « Où est passée la critique sociale ? Pensée globale au croisement des savoirs ». Puis, cette démarche de réinterrogation des logiciels s'est prolongée en s'intéressant sur une figure de la tradition critique et émancipatrice, Karl Marx, dans un livre qui avait une visée un peu plus pédagogique, puisque c'est un choix de texte commenté de Marx, mais commenté de manière différente des marxistes et des textes qui n'étaient pas forcément privilégiés par les marxistes. Donc c'est un livre qui s'appelle « Marx, 21e siècle », qui est paru en août 2012, et puis un court pamphlet qui a donné son nom à la dernière séance politico-intellectuelle, paru en octobre 2012, celui dont on a un peu plus parlé, disons, dans les médias, qui est « La gauche est-elle en état de mort cérébrale ?» Voilà un peu les éléments que je vous présentais vont puiser dans ces différents travaux qui ont été, disons, présentés en 2012. Alors d'abord, ça me suppose de poser cette question des crises intellectuelles, morales et politiques, de faire un constat, disons, à moyen terme, structurel, sur l'état intellectuel et politique aujourd'hui. Alors, sur ce plan, je vais suivre un chercheur britannique en sciences politiques, mais qui vit au Mexique, qui enseigne au Mexique, à l'université de Puebla, qui s'appelle John Holloway, qui a écrit un livre qui a eu un certain retentissement en 2002, « Changer le monde sans prendre le pouvoir ».« Changer le monde sans prendre le pouvoir ». Et puis, plus récemment, il a écrit un livre qui a eu un certain succès aussi, « Crack capitalisme ». Comme Holloway, dont je ne partage pas exactement forcément les réponses, comme Holloway, je pars quand même d'un constat. Ça fait environ deux siècles que les critiques du capitalisme échouent à créer une société non capitaliste émancipée durable. Donc ça fait beaucoup. En France, disons, le mouvement ouvrier est né autour, donc le mouvement anticapitaliste est né autour de 1830 en Grande-Bretagne avant. Et ce qu'on doit noter, c'est qu'il y a des échecs, disons, sympathiques. C'est les échecs, par exemple, des anarchistes ou des coopérativistes, ceux qui pensaient changer le monde en multipliant les coopératives ou les mutuelles. Bon. Il y a des échecs antipathiques, c'est les échecs staliniens, maoïstes, polpotistes, etc. Mais, en fait, au-delà de ces différences importantes, en fait, tout le monde a échoué. C'est-à-dire, l'échec est généralisé. Donc c'est un élément important à noter, disons, dans la situation et dont on part bien Holloway, il me semble. Et deuxième élément que j'ai convergent avec Holloway, dans les raisons multiples de ces échecs, parce que là il y a des éléments historiques, il y a des spécificités des différentes sociétés, des différentes périodes, etc. Mais il y a des tendances transversales dans ces échecs. Ce sont les mécanismes de concentration du pouvoir. Soit dans des formes, disons, soft, parlementaires, soit dans des formes qui sont devenues totalitaires et dictatoriales. Alors, ce constat que ça échoue depuis deux siècles et que les mécanismes de concentration du pouvoir ont contribué à faire échouer depuis deux siècles les expériences soit réformistes, soit révolutionnaires, rend d'autant plus nécessaire aujourd'hui le fait de réexaminer ces logiciels de la critique sociale et de l'émancipation de la pensée de gauche aujourd'hui. Donc c'est donc une question structurelle de moyen terme qui se pose alors à la gauche aujourd'hui, alors que justement une des particularités, on en reparlera dans la deuxième séance, une des particularités de la gauche, mais pas seulement, c'est d'être souvent une marionnette de l'immédiat et des urgences. Alors, ce réexamen des logiciels de la pensée de gauche renvoie pour moi à un enjeu, lui aussi structurel, un deuxième enjeu structurel qui est associé, de moyen terme. C'est ce que j'appelle la possible émergence d'une troisième politique d'émancipation moderne pour le XXIe siècle. Troisième politique d'émancipation moderne pour le 21e siècle, ça veut dire qu'il y en a eu deux autres. Ça s'appuie sur le constat d'un certain épuisement relatif des deux grandes politiques d'émancipation moderne. La politique qu'on va appeler républicaine démocratique, qui a émergé au XVIIIe siècle, en posant la question républicaine démocratique, politique, avec les notions d'égalité politique, de souveraineté populaire, de citoyenneté. Et puis la deuxième grande politique d'émancipation, c'est la politique socialiste dans toutes ses variantes au sens large, hein, social-démocrate, communiste, anarchiste, etc., qui a pris forme au XIXe, cette fois-ci, au XIXe siècle, en posant la question sociale avec des notions de classe, par exemple, et d'inégalité. Et cette politique socialiste s'est présentée comme une incorporation déplacement des thèses républicaines démocratiques. C'est-à-dire, ça incorporait en partie les thèses républicaines démocratiques, mais en ajoutant le traitement de la question sociale. Alors, aujourd'hui, une hypothétique nouvelle politique d'émancipation aurait certes à continuer à puiser dans les ressources républicaines démocratiques et dans les ressources socialistes, mais pas seulement parce qu'elle aurait à répondre à des questions renouvelées de la période, notamment celle de l'écologie ou celle de l'individualisme. Ce sont deux grandes questions importantes qui se posent à une nouvelle politique d'émancipation aujourd'hui. Alors, ça c'est la dimension, disons, structurelle à moyen terme, donc qui est souvent évitée par la gauche, qui est toujours souvent pris dans les immédiatetés, dans les urgences. Mais dans le même temps, ces questions se posent dans une conjoncture intellectuelle et politique particulière, qui révèle des urgences, c'est vrai, à court terme. Quelles sont quelques caractéristiques que je retiendrai? Les extrêmes droites, les droites extrêmes et les droites dites décomplexées, comme on dit en France, progressent en Europe et en France en particulier, premier élément, en même temps que les replis nationalistes, deuxième élément, en même temps que les discours xénophobes, troisième élément, et en même temps que le thème, particulièrement en France, mais pas seulement, du tous pourris. Donc on a ce contexte particulier de conjoncture. Et ce contexte se situe dans un contexte de crise économique et sociale difficile avec une montée du chômage et de la précarité. On peut alors faire l'hypothèse que la situation, on pourrait dire, a des effluves d'années 30, 1930. Et donc il faudrait, pour nous, répondre à des questions de moyen terme, donc celle qui concerne la reformulation de l'émancipation, mais à un moment particulier où, je reprendrai une expression du philosophe allemand Walter Benjamin, où nous serions au seuil du danger, à un moment particulièrement périlleux. Walter Benjamin dit ça en 1940, dans ce qu'on appelle ses thèses sur le concept d'histoire, et c'est quelques mois avant son suicide à la frontière franco-espagnole, alors qu'il fuyait le nazisme et qu'il était juif. Certes, notre époque ne recèle sans doute pas des virtualités aussi noires qu'alors, mais on peut dire que des potentialités assez grises quand même sont, disons, à notre horizon, immédiat, disons. Et donc, le problème dans cette introduction générale, c'est que on a un double défi qui fait se percuter deux temporalités différentes. Le moyen terme, il s'agit de reconstituer une politique, une pensée de gauche. Le court terme, il y a des éléments périlleux dans la situation conjoncturelle. Et donc il s'agit de repenser les logiciels de gauche et une politique renouvelée d'émancipation, mais dans une situation particulière où il faut en même temps répondre à des dangers immédiats. Et la situation apparaît ainsi assez difficile, et on voit mal d'ailleurs, on peut faire un constat assez pessimiste, on voit mal les gauches qui sont assez mal préparées y répondre, hein, à ce défi de répondre en même temps à une question de moyen terme, à une question de court terme, bon, à une urgence de court terme. La gauche étant particulièrement mal préparée pour répondre à cette question, à partir du moment où on fait l'hypothèse qu'elle est dans un état de crise intellectuelle, morale et politique, donc qui est le thème de mes trois séances. Voilà un peu le cadre général dans lequel je situe ma réflexion pour ces trois séances, et au-delà dans ma réflexion de philosophie politique, disons, les dernières années. Alors maintenant, on va passer à la séance proprement dite autour des conceptions de l'humain et des valeurs. Donc je vais commencer à aborder la question à travers un double angle. Les valeurs, d'abord. Alors, les valeurs, c'est ce qui est valorisé dans un groupe, dans une société, par des personnes aussi. C'est ce qui va alors composer ce qu'on appelle une morale ou une éthique. Je ne vais pas faire de distinction entre morale et éthique ici. Je les prendrai comme équivalentes. Il y a parfois des auteurs qui dissocient. Donc, il y a ces questions des valeurs. Qu'est-ce qui est valorisé ou dévalorisé? Et puis, il y a la question des conceptions de l'humain, qui est pas complètement la question des valeurs, mais comment on interprète ce que c'est que la condition humaine. Alors, des fois, on va l'interpréter de manière plus ou moins pessimiste ou optimiste, cette condition humaine. Donc, les visions qu'on a de la condition humaine, ce qu'on appelle d'un point de vue technique des anthropologies philosophiques, les conceptions philosophiques, a priori, qu'on a de ce que c'est que l'humain et la condition humaine. Voilà les deux grands axes pour aujourd'hui. Alors, je vais commencer par des éléments sur le brouillage des valeurs à gauche. C'est-à-dire, ce qui vaut, et donc ce qui ne vaut pas, ou ce qui vaut moins, à gauche. Et ce qui vaut et ce qui vaut moins, à gauche, tend de plus en plus à se brouiller. Avec des éléments spécifiques en fonction des gauches, ou aussi des éléments plus ou moins transversaux. Alors, je regroupe pas ça en deux morceaux. Le premier sera un peu plus gros. Le morceau, c'est une série de figures autour de quand le moyen ou l'étape devient la fin. Et le deuxième morceau, c'est la difficulté à penser des valeurs en tension. Donc une première figure, quand le moyen ou l'étape devient la fin, qui va avoir différents contenus, concerne des éléments qui dans un premier temps à gauche étaient appréhendés au plus comme des moyens ou des étapes vers quelque chose d'autre, vers des finalités d'émancipation. Mais qui peu à peu, subrepticement, sont devenus en pratique, souvent de manière non revendiquée, les finalités pratiques en fait, de fait, de l'action de la gauche. Donc elles se sont transformées de moyens ou étapes en fin. Premier élément, l'argent. Alors, là, c'est surtout dans un secteur évidemment important, puisqu'il est au gouvernement, de la gauche, que j'appelle la gauche hollandaise, ou la gauche de gouvernement, ou la gauche social-libérale, c'est les termes qu'on peut employer. Donc dans ce secteur de la gauche, l'argent s'est transformé donc ainsi de moyen en une finalité pratique, puisque ça reste la finalité d'une certaine façon de la société. Cela est lié à la conversion de cette gauche en France qui existe depuis, disons, le début des années 80 seulement, cette conversion de la gauche au capitalisme. Alors, qu'est-ce que c'est que le capitalisme? C'est un type de société qui constitue justement une logique d'accumulation illimitée, sans fin, du capital, à partir de la recherche du profit, alimentée par le profit. Bref, le capitalisme, c'est une logique d'accumulation sans fin de l'argent pour l'argent. Or, en admettant cette société, dont la logique principale est l'accumulation de l'argent pour l'argent, d'une certaine façon, la gauche hollandaise a fait de l'argent une finalité de fait de l'action de la gauche. Or, les pensées critiques, et notamment celles plus ou moins dérivées de la pensée de Marx, ont pointer toute une série de contradictions entre cette logique de l'argent, le capitalisme, et les finalités émancipatrices. Or, justement, la gauche hollandaise s'est détachée complètement de ce type de pensée critique, alors que la gauche socialiste en France était encore associée à ces pensées critiques jusqu'au début des années 1980. Alors, pour donner un exemple, je vais examiner rapidement quatre contradictions entre les finalités émancipatrices de la gauche et la logique de l'argent qui alimente le capitalisme. Première contradiction, c'est ce qu'on appelle la contradiction capital-travail, c'est ce qui a été privilégié par les marxistes pendant longtemps. C'est l'opposition entre le capital privé et le travail salarié. Le travail salarié, par le mécanisme d'exploitation, alimentant, disons, la dynamique sans fin du capitalisme. Les pronostics de Marx étaient assez justes de ce point de vue, parce que quand Marx écrit en France, il y a moins de 10% de la population active qui est salariée, aujourd'hui il y a plus de 70%. Donc on peut dire vraiment que le travail salarié s'est développé, en même temps que le capital. Les deux se sont développés. La particularité de l'époque contemporaine, c'est que, avec ce qu'on appelle le néolibéralisme, c'est que dans le rapport entre travail salarié et capital, le capital recourt de plus en plus à un travail précarisé par rapport à la période antérieure qu'on appelait fordiste, celle qui a succédé à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, contradiction capital-travail, logique d'exploitation du travail qui crée toute une série d'inégalités dans la société au service de l'alimentation de cette logique de l'argent pour l'argent. Première contradiction. Deuxième contradiction, elle est vue de manière plus récente. Dans mon livre sur Marx, je mets en évidence qu'il y a des textes tout à fait intéressants là-dessus de Marx lui-même dès le 19e siècle, mais les marxistes, si on peut intéresser, c'est ce qu'on peut appeler la contradiction capital-nature. Alors, c'est un peu développé aujourd'hui par ce qu'on appelle les éco-socialistes. La contradiction capital-nature, c'est de dire que la logique de l'argent pour l'argent, aujourd'hui, menace les conditions même naturelles de reproduction de la vie humaine à travers les environnements naturels et même l'existence de la planète. Et d'ailleurs, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, en tout cas sous cette forme, en remettant en cause les conditions naturelles de reproduction de la vie humaine, les conditions naturelles. Le capitalisme pourrait remettre en cause les conditions naturelles d'existence de toute vie humaine, hein, et pas simplement de la société capitaliste. Deuxième contradiction entre cette logique de l'argent pour l'argent et les finalités émancipatrices de la gauche. Là, ça concerne non pas l'égalité sociale et la répartition des richesses, mais la question des conditions naturelles d'existence des sociétés humaines. Troisième contradiction entre la logique de l'argent pour l'argent, c'est la contradiction capitale, on appelle capitale démocratique, qui est plutôt développée par les altermondialistes aujourd'hui, par une série de penseurs altermondialistes. Elle peut être saisie sur deux plans, cette contradiction capitale-démocratie. Premier plan, à un niveau global, c'est-à-dire que jusqu'à présent, dans les sociétés occidentales, ce n'était pas le cas dans les sociétés du Sud, hein, où le capitalisme existait en même temps que les dictatures. Mais dans les sociétés occidentales, le développement du capitalisme s'était opéré avec une progression des droits individuels et collectifs, des libertés. À travers toute une série de luttes sociales et politiques, mais ça s'est fait dans ce sens-là. Or, aujourd'hui, dans la logique de globalisation, on a plutôt un recul d'un certain nombre de droits et de libertés, alors liés à des logiques sécuritaires qui prennent, disons, différentes sociétés, qui ont notamment été activées au moment de la lutte contre le terrorisme. Bon. C'est aussi le recul du poids relatif des différentes logiques citoyennes sur les décisions. Bon. Le poids était très mince, hein, des citoyens sur les décisions dans ce que j'appelle des régimes représentatifs professionnalisés. Bon. C'est-à-dire que le poids est indirect, mais il y avait un lien entre les décisions et les électeurs. Indirect, mais un lien. Bon. Or, de plus en plus, disons, les décisions se prennent à des niveaux, firmes multinationales, institutions internationales, etc., commission européenne, où là, il n'y a plus de lien encore plus lointain avec les dimensions citoyennes. C'est le premier plan de cette contradiction capital-démocratie. Le deuxième plan, c'est déjà dans la vie quotidienne, c'est ce que formule bien une sociologue belge qui s'appelle Isabelle Ferreras dans un livre qui s'appelle « Critique politique du travail », basé sur une enquête sur les caissières de supermarché. Dans ce travail, Ferreras montre bien que nos sociétés sont des sociétés non pas démocratiques, mais à idéaux démocratiques. Voilà, il faudrait les prendre plutôt comme ça. Et elles ont diffusé les idéaux démocratiques de la participation de chacun, que chacun a le droit de dire son mot, etc. Bon. Mais en diffusant ces idéaux, elle a créé des attentes qui sont insatisfaites et qui créent une contradiction. Par exemple, dans le domaine du travail, le plus souvent, les gens n'ont pas le droit de dire leur mot, ils sont dans des logiques très hiérarchiques, Et ça crée des tensions. Donc, entre les idéaux démocratiques qui sont diffusés, disons, et la réalité de l'organisation hiérarchique et autoritaire de l'entreprise capitaliste. Donc, contradiction capital-démocratie. Et puis, une dernière, c'est celle qui est en fait la moins pensée, la plus marginalisée aujourd'hui. C'est celle que j'ai davantage travaillée dans mon activité de recherche, puisque c'est moi qui d'ailleurs a inventé l'expression, c'est ce que j'appelle la contradiction capital-individualité. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une contradiction aussi entre cette logique de l'argent pour l'argent et l'épanouissement des individualités. Bon. Comment ? Quelle est l'idée ? C'est que le capitalisme est une des forces individualisatrices de nos sociétés, c'est-à-dire qui met davantage au centre des sociétés humaines la notion d'individu, dans la consommation et dans le travail. C'est pas la seule, hein, par exemple les transformations de la famille patriarcale, émancipation des femmes, reconnaissance de droits pour les enfants, reconnaissance de modes de vie homosexuels, etc. Donc la mise en cause de la famille patriarcale a été un gros facteur d'individualisation aussi. Donc il n'y a pas que le capitalisme qui individualise, hein, il y a plusieurs logiques. Mais le capitalisme est une force importante d'individualisation. Donc le capitalisme stimule, même on pourrait dire excite, si on pense à la publicité, le besoin de réalisation de soi et d'épanouissement personnel, de reconnaissance personnelle des individus dans nos sociétés, plus que dans les sociétés antérieures. Mais en même temps, il ne peut les satisfaire que dans une logique d'accumulation du capital, donc de profit, et donc sur un marché, quand ça peut s'acheter sur un marché. Et en fait, donc, le capitalisme produit une frustration des besoins de réalisation de soi. Bon. Donc le capitalisme stimule les besoins de réalisation de soi, mais en même temps, il produit la frustration de ses besoins. Donc là, il y a une grosse contradiction très importante, mais qui est largement sous-estimée et qui intéresse peu les critiques du capitalisme, qui, touchent les sociétés contemporaines et qui mettent en exergue, disons, la tension entre la logique de l'argent pour l'argent et la finalité d'émancipation individuelle, d'autonomie individuelle. La première dimension est plus connue parce qu'elle a été privilégiée par les marxistes et par le mouvement ouvrier. La dimension capital-nature est en train d'émerger un peu plus. Elle reste encore marginale, mais elle a un peu plus émergé. La question du rapport à la démocratie aussi avec le mouvement altermondialiste, il y a vraiment un problème du côté de la contradiction capital-individualité qui n'est reprise par personne. On va voir pourquoi. Dans le deuxième point. Le deuxième point, la deuxième moyen qui est devenu une fin, bon, c'est le collectif. Alors là, ça touche toutes les gauches, hein. Pas simplement la gauche hollandaise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le plus souvent, en tout cas jusqu'à la guerre de 14, pas tous les courants, mais dans de nombreux courants de gauche en France, en tout cas avant la guerre de 14, mais dans d'autres pays aussi, le collectif, l'action collective, l'organisation collective, la solidarité, était considéré comme un moyen au service d'une finalité. La finalité, dans l'assillage de la Révolution française et de la Révolution américaine, c'était l'autonomie et l'épanouissement de l'individu. On va prendre quelques exemples, parce que on n'a pas forcément ça en tête, parce qu'on pense que la finalité de la gauche, c'était le collectif. Prenons des gens qu'on croit qui sont centrés sur le collectif. Karl Marx et Friedrich Engels, dans un des textes plus connus, le Manifeste du Parti communiste, 1848, un des textes les plus diffusés dans le monde, encore aujourd'hui. Voilà ce qu'écrivent Marx et Engels. À la place de l'ancienne société bourgeoise, avec ses classes et ses antagonismes de classe, surgit une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Et donc, le libre développement de chacun est une finalité centrale. C'est même la condition d'une société émancipée, pour Marx et Engels. Bon. Alors, le problème, c'est que la plupart des gens qui lisaient le texte dans les années 60-70 comprenaient à l'envers. Hein. Donc, ça a été un blocage, un problème particulier. Hier, il se trouve que j'étais auditionné par Place du Colonel Fabien, un lieu mythologique pour moi, bien que je n'ai jamais adhéré au Parti communiste. Mais dans les années 70, c'était un lieu mythologique. Donc, des dirigeants du Parti communiste m'auditionnaient sur mes derniers livres, hier, Place du Colonel Fabien, et on voyait bien qu'ils étaient tout à fait d'accord sur l'idée que comment se fait-il qu'on a compris, pourquoi tout le monde comprenait la phrase à l'envers. Pourquoi tout le monde disait c'est le collectif qui est le principal, peut-être un jour viendra l'individu. Bon. Alors Marx, Engels, hein, Jean Jaurès, c'est important quand même pour la gauche, le socialisme républicain. Hein. Qu'écrit Jaurès dans son texte « Socialisme et liberté » de 1898? Il dit que le moyen, c'est ce qu'il appelle la propriété sociale des moyens de production, hein, d'échange. La fin, c'est quoi? Le socialisme est l'individualisme logique et complet. Il continue en agrandissant l'individualisme révolutionnaire. Donc le socialisme, c'est l'individualisme de Denis Jaurès. Et il continue l'individualisme révolutionnaire, c'est-à-dire l'individualisme de la Révolution française. Celui qui, contre la société traditionnelle, a reconnu une autonomie et une importance à l'individu, à la notion d'individu, à la raison individuelle, à la citoyenneté individuelle, etc. etc. Jaurès, bon. Et puis, des courants libertaires qui ont marqué le syndicalisme français à ses débuts, ce qu'on appelle les bourses du travail, et la première CGT, qui était plutôt animée, disons, par des militants libertaires, jusqu'à la guerre de 14-18. Et par exemple, Émile Pouget, qui est militant anarchiste, secrétaire adjoint de la CGT nationale, écrit en 1910, dans une brochure importante de la CGT de l'époque, l'Action Directe, qu'il écrit ça, et c'est en cette gymnastique d'imprégnation en l'individu de sa valeur propre et d'exaltation de cette valeur que réside la puissance féconde de l'action directe, et il ajoute « exaltation de l'individu ». Donc dans tous ces courants, il y a bien de l'action collective nécessaire, il y a bien des organisations collectives de type solidarité qui sont nécessaires, mais c'est un moyen par rapport à une finalité qui est le déploiement de l'autonomie et de l'épanouissement de l'individu. Mais le problème, c'est qu'en France, j'ai vu ça à peu près après la guerre de 14-18, le collectif est devenu la finalité, et d'ailleurs on a oublié la finalité qui était l'individu, qui est devenu un élément marginal à gauche. C'est ce que j'appelle le logiciel collectiviste à gauche, la domination dans tous les courants de gauche. Hein, vous allez du Parti Socialiste jusqu'à Lutte Ouvrière, en passant par le Front de Gauche, le NPA, etc. Ce logiciel collectiviste domine complètement les gauches. Là. Et la prégnance de ce logiciel collectiviste empêche de se poser la question que j'ai indiquée dans le premier point, c'est-à-dire la contradiction capital-individualité. C'est notamment pour ça que c'est quelque chose qui n'est pas perçu en général par à gauche, cette contradiction forte du capitalisme autour de l'individualité, à cause de la prédominance de ce logiciel collectiviste. Troisième exemple, la croissance. Alors, la croissance de la production et de la consommation des biens matériels pouvait être considérée à gauche pendant longtemps comme un moyen d'amélioration de la situation de l'immense majorité. Mais là aussi, c'est toujours cette transformation, progressivement, la religion de la croissance est devenue en fait une finalité. Donc c'est la croissance pour la croissance. Cette idée de la croissance pour la croissance, l'idée que la croissance en elle-même est un bien, non pas un moyen, mais une finalité juste. Elle est largement partagée aujourd'hui dans la gauche hollandaise. Hein, tout le monde nous dit tout le temps qu'il faut retrouver la croissance. Hein. La gauche communiste et républicaine est très fortement marquée par ça. En dehors de, il faut noter, des déplacements intéressants du côté du parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon qui a mis un bémol sur cette question de la croissance et a intégré une critique, disons, du productivisme plus que d'autres forces politiques. Certains secteurs du trotskisme, moins le NPA mais surtout Lutte Ouvrière, bon, et même quelques écologistes quand ils sont adeptes de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie verte, hein. Ou la croissance verte, bon, qu'on pourrait appeler en fait le capitalisme vert. Bon. Aussi bien, disons, Nicolas Hulot que Daniel Cohn-Bendit. Bon. Donc la croissance, dans ce cas-là, serait la principale réponse à la plupart des maux et des difficultés. Hein. Croissance de quoi? Au profit de qui? Pour aller dans quelle direction? Comment? Avec quels effets sociaux, écologiques, démocratiques? Avec quelles conséquences sur les générations futures? C'est des questions qui ne sont pas posées dans la religion de la croissance. Et pourquoi d'ailleurs il faudrait nécessairement croître? Là, c'est une question qui n'est pas posée non plus. Ces questions sont pourtant cruciales, notamment à une époque de dérèglement climatique périlleux, de risques technoscientifiques inquiétants, nucléaires, OGM, gaz de schiste, etc., de pollution multiple. Donc évidemment, ces questions sont d'autant plus importantes. Sur ce plan, il me semble que les penseurs de la décroissance apparaissent assez utiles pour, on peut dire, décrasser ce qui semble aller de soi, qui n'est pas interrogé dans cette religion de la croissance. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi le productivisme, c'est-à-dire cette logique de la production pour la production, de la croissance pour la croissance. Ce productivisme fait en fait comme si le plus c'était nécessairement le mieux. Bon, est-ce que la finalité c'est le plus ? Ben, dans cette idée du productivisme, il y a l'idée que la finalité c'est le plus et le plus c'est nécessairement le mieux. Mais si on pense que le mieux on peut y l'atteindre par différents moyens, parfois c'est en croissant, dans un certain domaine, parfois c'est pas nécessaire. Comment ? Pourquoi assimiler ce plus et ce mieux ? Bon, ça c'est un élément fort, disons, de la religion de la croissance. Donc, les penseurs de la décroissance nous invitent opportunément à ouvrir des questionnements, mais il y a un danger aussi, un risque, c'est moi en tout cas certain, ça peut être un risque chez certains, c'est il faudrait éviter de refermer les questionnements en prétendant définir une réponse homogène à tous les problèmes, comme si ça devenait une nouvelle finalité, la décroissance. Comme si la finalité avant c'était de croître et maintenant c'est de décroître. Donc il pourrait y avoir, disons, des intégristes de la décroissance qui, face aux religions de la croissance, offrent une sorte de réponse standard qui ressemble un peu dans la forme à la réponse des productivismes, même si elle a le mérite aujourd'hui, dans le contexte de domination de la religion de la croissance, d'ouvrir le débat, en fait, le question. Enfin, dernier figure de ce passage des moyens aux fins, ou des étapes aux fins, c'est plus les étapes là, la nation. Alors, la nation était souvent à gauche une étape vers une émancipation plus large mondiale. Par exemple, dans la logique marxiste, on prend d'abord le pouvoir politique au niveau national, et puis après, on va vers une émancipation mondiale. C'est avant le mouvement ouvrier, ça. Kant parlait au XVIIIe siècle de cosmopolitique. Donc une politique du cosmos, du monde. C'était quoi chez Kant ? C'était l'idée que la politique, même si pour Kant c'était difficile, avait pour horizon l'humanité et la République universelle, comme horizon. On allait vers, donc il y avait sans doute des étapes nationales, mais la constitution des États-nations, mais l'horizon, c'était la République universelle, l'humanité. C'est ce que proclame le mouvement ouvrier avec la chanson L'Internationale en 1871. L'International sera le genre humain. L'objectif, c'est de dépasser la nation pour un cadre plus large, universel. Alors, il y a eu dans l'histoire de la gauche des hauts internationalistes avec des solidarités. Par exemple, pendant la guerre d'Espagne, les brigades internationales, etc. Mais il y a aussi beaucoup de bas nationalistes. Il n'y a pas eu des hauts, il y a eu plus de bas encore nationalistes. Songeons à la boucherie de la guerre de 14-18 ou aux guerres coloniales. Aujourd'hui, en fait, dans un contexte français et européen qui donne un certain regain à l'humeur nationaliste, dans un premier temps par la droite et par l'extrême droite, les gauches aussi sont largement maintenant embarquées dans une évolution plutôt nationaliste, qui ferait de la nation une finalité, qui oublierait la finalité de l'international sera le genre humain, où la nation n'est plus un moyen, mais devient en pratique une fin, n'est plus une étape, et devient l'horizon. Cela s'est tout particulièrement manifesté lors de la dernière élection présidentielle, où c'était un fait nouveau. Le drapeau tricolore et la Marseillaise sont devenus les emblèmes centraux du Front National au Front de Gauche, en touchant tout le spectre politique. Et ça avait été anticipé avant par ce qu'on a appelé les discours démondialisateurs, notamment de Arnaud Montebourg, avec une touche, disons, particulièrement, disons, franchouillarde, voire des accents xénophobes. C'est Arnaud Montebourg qui n'hésitez pas, disons, à stigmatiser le caractère voleur des Chinois et trouble des Allemands. Bon. Et d'ailleurs, ses accents franchouillards, depuis qu'il est ministre, se sont accentués quelque peu. La critique de la mondialisation capitaliste, elle, par contre, est restée de côté, mais la dimension franchouillarde a augmenté. Bon. Mais même des intellectuels de la gauche de gauche sont en train d'oublier aujourd'hui, pour des raisons diverses, la finalité internationaliste de l'action émancipatrice. C'est ce qu'on a vu récemment, j'ai eu un débat avec lui dans le cadre d'attaques avec l'économiste atterri Frédéric Lordon, qui assimile de plus en plus souveraineté populaire et souveraineté nationale, avec l'idée que la seule moyen de penser la souveraineté, c'est la nation, et donc le peuple est assimilé à la nation. Où il y a toute une série d'appels dans la gauche de gauche, il y a un livre qui vient de sortir, très récemment, de sortir de l'euro ou de sortir de l'Europe. Bon. En fait, les acquis qui avaient conduit en 1999, c'est pas si loin que ça, hein, de passer de ce qu'on appelait l'antimondialisation, au début on parlait de l'antimondialisation, et en 99, en tout cas dans les secteurs francophones, on passe à l'altermondialisme. L'altermondialisme, c'est quoi? C'est l'idée que d'autres mondes sont possibles. C'est que face à la mondialisation capitaliste, on n'oppose pas la nation, mais la possibilité d'un autre monde. Hein. C'est ça le passage. Et bien, cet acquis altermondialiste est en train de s'effriter assez largement et rapidement dans l'espace même de la gauche critique et de la gauche de gauche, au profit, disons, d'une montée du nationalisme, de différentes formes de nationalisme ou de repli national. Bon. Et donc, voilà une série, hein, alors ça touche pas toutes les gauches tout le temps, etc., mais une série d'éléments où le moyen, où l'étape devient la fin, l'argent, le collectif, la croissance, la nation. Alors pour penser encore, parce que c'est mon point le plus long, la question des valeurs, il y a une difficulté aussi de la gauche à penser des valeurs en tension, c'est mon deuxième point. C'est-à-dire à penser la pluralité, la tension et les arbitrages difficiles entre différentes valeurs. Alors on connaît l'opposition entre égalité et liberté qui est classique. Hein. Par exemple, les penseurs libéraux comme Alexis de Tocqueville vont opposer radicalement les deux en disant il y a une tendance dans les sociétés humaines à l'égalisation, à l'égalité, mais ça réduit l'espace de la liberté. Et donc il y a une opposition entre l'égalité et la liberté, mais avec l'idée que, disons, il y en a un qui va manger l'autre d'une certaine façon, qui est en train de manger l'autre. Et donc il peut y avoir encore aujourd'hui, même à gauche, cette idée tocquevillienne de qu'il faut choisir la liberté contre l'égalité parce que la liberté est sans arrêt menacée par l'égalité. C'est le premier élément. Il y a ceux qui pensent que c'est l'égalité qui est menacée par la liberté, hein, en assimilant la liberté au marché, etc., et en considérant que donc ça met en cause les possibilités d'égalité. Et puis il y a ceux qui articulent les deux en disant « mais non, ça va ensemble, il n'y a aucun problème, ça baigne ». C'est le philosophe Étienne Balibar qui a forgé la notion d'égale liberté. Hein. Alors, il met « égal » et puis « liberté », donc « toucher ensemble », ça devient un seul mot, « égale liberté ». Alors là, ça baigne, il n'y a pas de problème. Bon. Mais dans tous ces cas, on a du mal à faire que peut-être la gauche, c'est la mise en tension, on a aménagé un espace de tension entre ces deux valeurs qui parfois vont dans des directions différentes, c'est vrai. Hein, plus d'égalité, plus de liberté ou d'autonomie des individus, ça ne va pas toujours dans le même sens. Et comment on aménage, on met en tension, on arbitre les deux. Bon. Pensez les tensions entre deux types de valeurs comme ça. Mais il y a d'autres types de valeurs qui sont qu'on a du mal dont on a du mal à penser la tension. Par exemple, aujourd'hui, dans les milieux écologistes, on privilégie la lenteur. Par exemple, c'est pour ça qu'on est contre le TGV, bon. L'avion, etc. Et alors, dans d'autres secteurs, on va être pour la vitesse. Bon. Mais pourquoi choisir l'une contre l'autre? Alors, évidemment, les deux sont contradictoires, il y a une tension. Mais pourquoi? Est-ce qu'on n'est pas amené à certains moments de sa vie, ou à certains moments des sociétés, de privilégier la vitesse ou la lenteur? Pourquoi choisir l'une contre l'autre? Bon. Il y a une autre opposition qui est très présente, avec aussi les pensées de la décroissance. C'est d'un côté... la frugalité, la zèse, hein, donc consommer moins, etc. Bon. Et donc retrouver une sorte de... sortir de l'avoir et retrouver un être plus riche dans une forme d'ascèse, de frugalité. Et puis il y a toute une tradition qui dit au contraire que l'émancipation, elle naît de la dépense. Un grand écrivain français du XXe siècle, Georges Bataille, il y a un texte qui s'appelle « La notion de dépense » 1933, où c'est au contraire la dépense qui permet le déploiement de l'individu. Contre d'ailleurs une sorte de rigidité de l'éthos protestant capitaliste. Mais pourquoi pas passer l'attention, hein, la sexualité est assez intéressante là-dessus, parce que la question de se retenir et de la dépense est constamment au cœur de ce problème. Hein, et pourquoi on aurait à choisir l'ascèse ou la dépense, bon. Enfin, dernier exemple, là aussi ça a été réactivé soit par les mouvements régionalistes, soit par les mouvements écologistes. Il y a d'un côté ceux qui disent qu'il faut vivre au pays, il y a les communautés locales, c'est plein de sociabilité, les gens se tiennent la main dans les villages, on s'aime, etc. Bon. Et de l'autre, ceux qui disent au contraire il faut voyager, parce que les esprits locaux sont étriqués, il faut s'ouvrir au monde, il faut voyager. Bon. Alors, on voit bien que pourquoi choisir la valeur du vivre au pays, du local, contre la valeur du voyage et de l'ouverture au monde. Parce que est-ce qu'on n'a pas besoin des deux? Alors évidemment, ça ne va pas dans le même sens. Et donc ça suppose aussi de penser une tension de valeur, de ne pas choisir l'une contre l'autre. Bon. Alors, ça c'est une deuxième difficulté sur le brouillage des valeurs, c'est la difficulté à penser les tensions entre les valeurs. Bon. En ayant souvent l'idée d'un choix unilatéral de l'une contre l'autre. Bon. Ou alors des rêves de synthèse où tout baignerait, où tout s'est articulé sans tension, sans contradiction. Celui qui nous aide, qui nous donne une sorte d'outillage intellectuel pour mieux penser ça, c'est un libertaire du 19e siècle, Pierre-Joseph Proudhon, qui a forgé l'idée de l'expression équilibration des contraires. C'est-à-dire que pour lui, une société meilleure, c'est pas une société qui créerait une harmonie ou une synthèse, mais c'est une société qui aménagerait les contradictions, les tensions dans une société. Une équilibration des contraires. Hein. Si on reprend égalité, liberté, lenteur, vitesse, frugalité, dépense, local, voyage, on voit bien que cette question de l'équilibration des contraires. Il y a aussi un pasteur écolo-libertaire intéressant, militant d'ailleurs aujourd'hui du Front de Gauche, qui s'appelle Stéphane Lavignotte, hein, dans un livre qui s'appelle « La décroissance est-elle souhaitable ?» de 2010, qui est assez intéressant. Il appelle à une hybridation des valeurs. Donc c'est une idée aussi intéressante, l'hybridation des valeurs. Alors, voilà pour le premier point, hein, le brouillage de la gauche sur le plan des valeurs. Les brouillages des gauches sur le plan des valeurs. Avec à chaque fois, j'ai simplement en pointillé, indiqué des pistes alternatives par rapport à la façon de penser, de ne pas penser des gauches. Le deuxième point sera plus bref. Ça concerne donc ce que j'appelle les anthropologies philosophiques. C'est-à-dire, les anthropologies philosophiques, c'est donc les visions des caractéristiques des humains et de la condition humaine qui sont plus ou moins sous-jacentes aux politiques de gauche. C'est-à-dire qu'il y a souvent une vision de la nature humaine ou de la condition humaine qui est plus ou moins implicite à telle ou telle politique. Bon. C'est pas souvent conscient, en fait. Hein. C'est souvent quelque chose d'implicite et pas conscient. Donc, c'est ce qu'on appelle les anthropologies philosophiques. Mais c'est sur un mode tacite. On peut difficilement, d'ailleurs, se passer de ces conceptions tacites de ce que c'est qu'un humain. Dans la défense d'une revendication syndicale, dans un mode d'organisation d'un parti, dans l'expérimentation d'un mode de vie alternatif, dans la mise en œuvre d'une politique publique, ou dans une stratégie de transformation sociale, il y a plus ou moins, on s'appuie plus ou moins sur une certaine idée de ce que sont les humains qui vont effectuer ça, ou sur lesquels va s'appliquer cette politique. Bon. puisque pourquoi toutes ces politiques, ces actions politiques ont à se débrouiller avec des humains qui sont dotés de certains penchants, dispositions, sentiments, etc. Mais le problème, c'est lesquels. Et on entend bien le problème hein, de la réponse définitive souvent du côté café du commerce. Oui, mais c'est la nature humaine. Bon. Alors, mais oui, mais c'est laquelle bon. Alors, il n'est pas sûr qu'on doit choisir quelle est la nature humaine, parce qu'il n'y en a peut-être pas. Bon. Il faut retenir ici une idée assez amusante de Oscar Wilde, cet écrivain britannique, une figure du dandysme, mais qui en même temps, et c'est moins connu, avait un intérêt pour le socialisme. Dans son petit essai iconoclaste qui s'appelle « L'âme humaine sous le socialisme » de 1891, Oscar Wilde lançait un peu goguenard « La seule chose que nous sachions vraiment de la nature humaine, c'est qu'elle change. » Donc si elle change, c'est peut-être pas une nature, bon, puisqu'elle n'est pas fixe. Bon. Alors, le problème, c'est que cette matière anthropologique, elle apparaît assez complexe. Et en même temps, les gauches n'arrêtent pas d'y plonger les mains sans le savoir. Enfin, comme un peu M. Jourdain fait de la prose. Alors, je m'arrête sur deux oppositions un peu sous-jacentes qui sont importantes à gauche, qui ne sont pas toujours clarifiées. Qui opposent souvent hein, des anthropologies philosophiques qu'on va considérer comme optimistes à celles qu'on va considérer comme pessimistes. Hein. Alors on va dire, est-ce que la nature humaine est bonne ou est-ce que la nature humaine est mauvaise? On va voir ces deux variantes. Hein. Souvent on va dire, quand optimiste, on va associer ça à Rousseau, on va dire rousseauisme, mais c'est mal connaître Rousseau, parce que, notamment dans le contrat social, il explique que la démocratie c'est le meilleur régime, mais que c'est un régime pour les dieux, et les humains sont pas très adaptés à ce régime, ils sont trop faibles. Bon. Donc il n'avait pas une vision si optimiste que ça de la nature humaine, Rousseau. Alors, deux auteurs sont utiles ici parce qu'ils permettent d'expliciter deux possibilités. Et ça nous permet d'expliciter un peu toute une série de choses implicites dans les controverses actuelles, plus ordinaires, politiques. D'un côté Karl Marx, de l'autre côté, dont on a déjà parlé, de côté Émile Durkheim, qui est peut-être moins connu, qui est un des fondateurs de la sociologie universitaire française et qui a été une des figures de la pensée républicaine française de la Troisième République. Une des anthropologies philosophiques principales qui traverse l'œuvre de Marx est plutôt optimiste. Hein. Marx est du côté du pôle optimiste. Marx va mettre en cause le morcellement de l'homme dans la société capitaliste à cause de la marchandisation. C'est par exemple ce qu'il fait dans son livre Les Manuscrits 1844, où par rapport à la spécialisation du travail dans l'usine, c'est ce qu'il fait dans le livre 1 du Capital, hein, un peu à la manière de ce que fera Charlie Chaplin dans les temps modernes. Hein. Soit la marchandisation, soit la spécialisation du travail morcelle l'homme. Or, Marx a en tête une anthropologie qui est celle de ce qu'il appelle l'individu complet ou l'homme total. C'est-à-dire un homme ou un individu qui n'est pas morcelé, justement, mais qui peut développer une diversité de capacités de sens. Mais la marchandisation ou la division du travail morcelle. Et donc, il faudrait réunifier. Dans cette anthropologie de l'homme complet, pour Marx, les humains sont dotés de désirs et de passions infinies. On va voir que c'est un élément commun à lui et à Durkheim. Chez Marx, le désir et la passion apparaissent intrinsèquement positifs. Émancipateur. Créatif, on peut dire. Or, le problème, c'est que le capitalisme constitue un cadre social qui entrave, étouffe, amenuise ses capacités humaines. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, en fait, libérer, hein, émanciper les désirs humains, créateurs, pour qu'ils se déploient contre le capitalisme qui les étouffe, soit par la marchandisation, soit par la division du travail. Donc, pour Marx, une société émancipée devrait libérer les désirs humains créateurs de leurs entraves. On peut parler ici, chez Marx, d'une anthropologie philosophique des désirs humains créateurs, associée à une politique émancipatrice. Donc, c'est plutôt positif. Alors, Émile Durkheim part de quelque chose d'assez proche de Marx. mais il va aboutir à un constat, une vision pessimiste. Pour lui aussi, les désirs humains sont illimités, comme il dit. Mais le problème, c'est qu'il se présente en général comme frustrant, pas comme créateur. Je cite une phrase de Durkheim dans un livre important, c'est la première étude statistique en sociologie sur le suicide. Ça s'appelle Le Suicide. Un des textes classiques de Durkheim, ça date de 1897. Et Durkheim écrit « Une soif inextinguible est un supplice perpétuel. » Une soif inextinguible est un supplice perpétuel. Non, plus je bois, plus j'ai soif. Donc plus mon désir se remplit, plus ma frustration augmente. Bon. Alors on voit bien, alors que chez Marx, plus mon désir se développe, plus il se déploie dans la création, et plus il est plein, d'une certaine façon. Chez Durkheim, donc, on a alors plutôt une philosophie politique des règles et de l'éducation républicaine. Et donc, on doit mettre des entraves, donc des règles, par exemple, des contraintes pour que le désir ne déborde pas. Hein. En débordant, le désir humain, disons, à la fois détruirait chaque personne et en même temps la société, c'est ce que Durkheim appelle l'anomie. Donc on peut repérer chez Durkheim une anthropologie philosophique des désirs frustrants associée à une politique de l'éducation et de l'État républicain, des règles républicaines. Alors, on voit bien l'opposition à une vision plutôt optimiste, une vision plutôt pessimiste. Alors quand je fais de la politique, est-ce que je m'appuie sur l'idée que le désir est frustrant ou est-ce que je me rappuie sur l'idée que le désir est créateur? Alors, c'est pas la même politique, hein. La politique des règles républicaines ou la politique de l'émancipation révolutionnaire, c'est pas exactement la même politique. Les gauches républicaines sont souvent implicitement du côté anthropologique de Durkheim. Hein. Les gauches libertaires sont plutôt du côté de Marx, parce que de ce point de vue, Marx est plutôt libertaire. Bon. Alors, dans ce cas, d'une certaine façon, le danger, c'est que ces anthropologies, disons, se transforment en une sorte de conte de Noël. Alors, dans l'inspiration marxienne, la belle au bois dormant des désirs humains est paralysée par la fée Carabosse, c'est le capitalisme, et réveillée par le prince charmant révolutionnaire. C'est génial. Et on pleure à la fin. Dans l'inspiration durkheimienne, le petit chaperon rouge citoyen est menacé par le grand méchant loup, des désirs humains en ébullition à l'intérieur de lui. Et il est sauvé in extremis par le chasseur de l'école républicaine, le chasseur républicain. Alors, là chez ces Marx et ces Durkheim, les marxistes sont souvent demeurés implicitement hésitants entre les deux, parce que je dis les libertaires sont du côté de l'anthropologie de Marx, mais les marxistes sont souvent hésitants, ils hésitent entre anthropologiquement entre la figure de Durkheim et la figure de Marx. Parce qu'à la fois ils voudraient que certains marxistes voudraient que d'un côté le désir soit frustrant dans la société capitaliste, et après il y a un miracle qui se produit qu'on appelle le communisme. C'est ce qu'on appelle l'homme nouveau aussi. Et alors, le même homme qui avait un désir frustrant, il n'a plus que des désirs créateurs. C'est génial. Donc là, les marxistes hésitaient. Alors, il y a des marxistes plus libertaires qui vont insister, au contraire, sur cette dimension du désir créateur, mais ils hésitent. Bon. C'est une sorte de encore plus beau conte de Noël, on peut dire, puisque les bons sont gagnants à tous les coups. Puisque on prend une anthropologie pessimiste pour la société capitaliste et on en prend une optimiste pour la société future, la société meilleure. Et on trouve parfois ça aussi aujourd'hui, ces contes plus compliqués, ces beaux contes de Noël plus compliqués, on trouve ça dans certains discours écologistes ou décroissants. Hein, les désirs frustrants pour la société de consommation présente, et puis les désirs créateurs pour la future société décroissante ou idéale écologique. Avec toujours l'idée que, d'une certaine façon, les désirs humains vont se transformer par une sorte de coup de baguette magique de frustrant en créateur. Vous voyez, les gens seraient complètement abrutis par la société de consommation dans leur supermarché, etc. Et puis après, ils passeraient leur temps à faire du macramé dans la société future. Qu'est-ce que ça serait marrant. Alors, et donc il y a une sorte de basculement de la mauvaise anthropologie dans la mauvaise société à la bonne anthropologie pour la bonne société. Et il faut quand même un moment de magie à certains égards. Avec toujours quand même des potentialités autoritaires ou totalitaires, parce que comme le nouveau, c'est difficile à le faire advenir, à un moment donné, il faut mettre les gens dans des camps, il faut des policiers, etc., pour que faire advenir l'homme nouveau. C'était la logique de Pol Pot quand même. Les gens sont complètement aliénés, frustrés dans les villes, etc. Bon, on va aller tous les envoyer à la campagne, ça fait entre un demi-million et un million de morts. Bon. Donc il y a toujours ces possibilités totalitaires dans cette vision de l'homme nouveau. Alors, si on voulait rompre avec des schémas unilatéraux de ce type, il faudrait pouvoir se caler sur une vision plus contrastée des ambivalences des désirs humains. Au moins ne serait-ce que de prendre en considération la double potentialité du désir humain, frustrant et créateur. Ce qui amènerait à mettre en tension des institutions collectives et des désirs individuels. Bon. Et donc il faudrait quelque chose comme une anthropologie, on va dire, pluraliste, au moins en tension, entre plusieurs possibilités, qui pense l'ambivalence en fait des désirs humains, qui ne caractérise pas sous un seul angle, et une anthropologie prudente, en fait, on veut dire. C'est-à-dire, il ne faut pas caler une action politique sur une vision trop unilatérale de ce qu'on va se considérer comme la nature humaine. Parce que peut-être la nature humaine, ça n'existe pas, puisque, comme le dit Oscar Wilde, ça bouge. Mais se baser sur une idée de la nature humaine, soit positive, soit négative, pour faire une politique, ça serait une erreur. Oui, une plus grande prudence et un plus grand pluralisme dans la façon de considérer, disons, les humains. Au-delà de cet exemple de l'opposition anthropologique entre Marx et Durkheim, on peut dire que ces impensés ou ces implicites anthropologiques des gauches devraient être davantage discutés. Justement autour de ne pas trancher sur optimisme ou pessimisme, mais trancher du côté de la prudence et du pluralisme. On est ici dans une contradiction, c'est que d'un point de vue de l'observation sociologique et historique, la nature humaine, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trouver complètement des invariants fixes dans les comportements des humains à travers toutes les périodes de la société, toutes les sociétés. Bon. Certains s'y ont essayé, etc. Par exemple, Lévi-Strauss s'y essayait avec le tabou de l'inceste, mais c'est remis en cause même, cette idée qu'il y aurait un élément fixe. Bon. Mais en même temps, quand on fait de l'action politique, qu'on fait de la politique, on peut pas en faire si on n'a pas une idée implicite de ce que sont les caractéristiques des humains et de la condition humaine. Donc à la fois la nature humaine, ça n'existe pas, mais on a des petites figures de nature humaine dans notre tête qui vont contribuer à orienter notre action. C'est là la contradiction dans laquelle on est plongé. Bon. Et donc, il ne faut pas penser ces présupposés anthropologiques comme voilà, une vision fixe de la nature humaine, mais il faut les penser plutôt comme des comme-si. La condition humaine comme si, alors elle était avec tel type de propriété par rapport à tel autre. Bon. Mais on ne peut pas complètement s'en passer de ces présupposés. Bon. Et donc comme on ne peut pas complètement s'en passer, on a intérêt à la fois à cette prudence anthropologique, c'est-à-dire on peut dire ne pas mettre tous nos œufs anthropologiques dans le même panier, le panier de l'optimisme ou le panier du pessimisme, et un pluralisme anthropologique, c'est-à-dire considérer, même si on ne peut pas les considérer tous, au moins une pluralité de référent anthropologique, notamment au moins, au minimum, sous la forme d'une tension entre deux pôles. Et ça, ça me semble de meilleur augure que l'adhésion implicite, mais jamais trop réfléchie, à des orientations exclusivement optimistes ou exclusivement pessimistes, comme souvent à gauche. Voilà, alors j'ai essayé de traiter un premier stade de ce problème des crises intellectuelles, morales et politiques des gauches aujourd'hui en France, hein, à travers des éléments qui ne sont pas forcément toujours bien perçus, hein, la question des valeurs et le brouillage des valeurs, et le problème des conceptions de l'humain de la gauche, et, qui sont souvent implicites. Donc voilà, c'est un premier éclairage sur ces crises intellectuelles, morales et politiques, dont on va pouvoir maintenant discuter avant de passer aux prochaines séances, aux autres aspects.